Les nuits de France Culture.
Pourquoi peut-on dire, comme il le disait lui-même, que Salvador Dali était fou, mais qu'à la différence d'un fou, il n'était pas fou du tout? Comment comprendre cela, qui pourrait avoir l'air d'être une blague, mais qui n'en est pas une? C'est ce que va nous faire entendre l'archive qui va suivre, la huitième partie de la série produite par Daniel Lecomte, après l'ouverture du théâtre-musée Dali de Figueras. Une série qui proposait à ses auditeurs le trousseau de clés des portes du musée et de celles qui ouvraient sur l'artiste et son œuvre. Dans cette huitième émission, le docteur Pierre Roumeguer, qui avait été son analyste, racontait comment Dali avait surmonté le poids écrasant du cadavre d'un frère mort avant sa naissance, comment il avait développé lui-même une stratégie de retour à la vie, inventé les antidotes des poisons qui le tuaient, avant de rencontrer l'antidote suprême, le miracle de son existence, que fut Gala. Nuit magnétique, clé pour un théâtre-musée, huitième des 10 épisodes, naissance des angoisses liquides. Première diffusion, le 15 novembre 1978, sur France Culture.
Il y a peu d'images doubles au théâtre-musée de Figueras. Le fait est d'autant plus regrettable qu'elles sont un trait caractéristique de la peinture de Salvador Dali. Nous avons vu d'ailleurs dans les deux dernières émissions le lien qu'elles avaient avec la notion spécifiquement dalinienne de la paranoïa critique. Nous allons découvrir aujourd'hui à quel point l'idée même de double est attachée à la personnalité de Dali. Le docteur Roumeguer est l'un des premiers à avoir étudié la question. Paradoxalement, c'est après avoir écrit une étude psychanalytique sur les images de Dali qu'il en comprit l'importance. Il avait en effet remis son essai au peintre. Celui-ci, après l'avoir parcouru, lui fit part de son désappointement.
Il était tristement déçu et assez décontenancé que, d'une part, j'ai pu faire ça et deuxièmement, que je lui offre un visage aussi plat et bête. Pour tout dire, c'était le mythe d'Oedipe, si vous voulez, oedipien, et le traumatisme oedipien, la scène primitive, et ça, j'en ai tout. C'était rigoureusement absolument vrai, mais c'était pas le problème. Et au lieu de me dire, forcément, la psychanalyse, c'est traumatisant, Freud a parfaitement montré que le retour du refoulé provoque de l'angoisse, donc du refus, qui peut d'ailleurs être très dangereux et qui, ce refus, peut aller à provoquer ou un suicide ou l'expulsion brutale de l'imbécile maladroit qui a trop brutalement révélé quelque chose. J'aurais pu me dire ça. D'ailleurs, c'est absolument typique et selon l'ordre même de la pensée psychanalytique. Eh bien, j'ai eu une attitude beaucoup plus affective et existentielle. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est trop facile de dire que ça vient de Dali. Et ben peut-être que je suis tout simplement passé à côté parce que j'ai fait un mauvais départ et j'ai eu beau respecter les règles classiques de la psychanalyse, ben, j'ai fait un bon devoir d'écolier de l'école primaire. Bon, j'ai tort, il a raison, il faut penser à toute autre chose, repartons. Mais pas à partir des principes de la psychanalyse. Je vais partir de l'homme Dali, et comme il nous a tout dit dans cette œuvre que j'adore et que j'admire profondément, eh ben, je vais partir de ça, puis je vais voir si je ne suis pas passé à côté de quelque chose de très important.
Dans la nuit qui suivit, le docteur Roumeguer relut donc la vie secrète de Salvador Dali.
C'est peut-être le journal, l'autobiographie la plus authentique qu'il y ait dans l'histoire de la littérature. Je prends le cas du président Schreiber, bien célèbre. Eh ben, c'est une autobiographie délirante, il nous manque, on a le point d'arrivée, on n'a pas le point de départ. Avec Dali, on a les deux. Et avec quelle lucidité, avec quelle mémoire, puisque, et là, c'est là qu'il n'est pas fou, il y a un chapitre « Faux souvenirs d'enfance ». qui ont une valeur considérable, mais il nous a bien dit, attention, c'est pas la réalité, c'est une réalité subjective, c'est pas une réalité objective. Dali a, en une phrase et sans toutes ces grandes phrases scientifiques, a dit « faux souvenir d'enfance, vrai souvenir d'enfance ». De même que, il nous a bien dit, alors que tout le monde sait que dans la paranoïa il y a des hallucinations, il a génialement décrit, comme aucun psychiatre ne l'a fait, des pseudo-hallucinations, des visions qui s'imposaient à lui. Il n'a eu qu'une véritable hallucination qu'il a racontée en détail. C'est la seule vraie hallucination. Les autres, eh ben là, on tombe dans la méthode paranoïaque critique, une espèce de flash mental qui, avec cette puissance de visualisation considérable qui sont en lui, lui ont permis de visualiser, car c'est une mécanique implacable, une mécanique d'engrenage dont les crans s'engrènent l'un dans l'autre admirablement, mais en gros, c'est parti, d'une façon très dalinienne, des œufs sur le plat sans le plat.
Extrait de la vie secrète.
Mon frère possédait une de ces intelligences insurmontables, à direction unique, incapable d'un reflet, se consumant sur elle-même. Moi, au contraire, comme je l'ai également dit, j'étais un pervers polymorphe, demeuré et anarchisant. Toutes mes prises de conscience se matérialisaient en gourmandises, et toutes mes gourmandises devenaient prises de conscience. Tout me modifiait, rien ne me changeait. J'étais mou, lâche et rébarbatif. Mon esprit devait trouver dans la rigueur de la pensée espagnole la forme suprême des agates sanguinaires, jésuitiques et arborescentes de mon curieux génie. À 7 ans, je voulais être Napoléon. Il me faut m'expliquer. Au 2e étage de notre maison habitait une famille argentine, les Matas. Au 2e étage, on m'idolâtrait comme à la maison. Vers les 6 heures, autour d'une table monumentale du salon, sur laquelle se dressait une cigogne empaillée, des personnes fascinantes, aux chevelures et à l'accent argentin, buvaient du maté. On le servait dans un grand suçoir d'argent, à passer de bouche en bouche. Cette promiscuité buccale me troublait particulièrement et engendrait en moi des tourbillons de malaises moraux dans lesquels brillaient déjà de leur éclat blanc les diamants de la jalousie. Je voulais sucer à mon tour ce liquide tiède, plus doux à mon goût que le miel, ce miel qui est déjà plus doux que le sang même. Je voulais sucer à mon tour le liquide de Napoléon, car l'empereur était lui aussi présent dans le salon du 2e étage, ou sinon lui, du moins son image coloriée au flanc du petit tonneau de bois contenant le maté. Cette image de Napoléon au flanc du tonneau s'était emparée de mon esprit au point de l'obnubiler comme le jaune d'un œuf sur le plat, mais sans le plat.
Alors, voyez-vous, toujours la présence-absence, l'œuf sur le plat, sans le plat, c'est un leitmotiv, je retombe toujours dessus, c'est quelque chose de fondamental. Dans les 4 premières pages de son livre, il en parle, et d'une façon très significative, entre son frère mort et lui. Mais entre les deux, il y a les œufs sur le plat, sans le plat, avec, sans et à deux. Et il faudrait aussi voir les passages où il reprend ses analogies, où il reparle discrètement d'ailleurs de son frère mort. Bon, et alors ce sont ces deux œufs, l'œuf, c'est le germe, il y en avait deux. Il y avait son frère, mais surtout, il portait le même nom. Et surtout, en plus, car après tout, on peut penser que l'enfant d'un an et demi ignore complètement cette histoire de germination, de dioscurisme, d'œuf et du symbolisme de l'œuf sur le plat.
Les dioscures sont, dans la mythologie grecque, les fils jumeaux, nés des amours d'une mortelle, Léda, et de Zeus, qui s'était transformé pour la circonstance en cygne. Comme leur père, Castor et Pollux, sont immortels. Dali reconnaît que la figuration du cygne, assez fréquente dans son œuvre, n'est pas due au seul hasard.
Les cygnes viennent du mythe de Dioscure, qui a été trouvé par le psychologue et psychiatre Roumaguera, qui a trouvé qu'il y avait, que Gala et moi, nous étions des Dioscures, c'est-à-dire les sœurs immortelles, en opposition à l'autre œuvre, parce que vous savez très bien que Jupiter se déguise en cygne pour baiser Léda. Et Léda fait deux œuvres. Dans un, il y a Gala et moi, et dans l'autre, il y a Clistémès.
C'est ça, mais vous avez compliqué le jeu avec la Léda Atomica.
C'est ça. C'est
puisque
ça.
Gala est de toute façon, à ce moment-là, reproduite.
Oui, absolument.
Avec un autre signe, un autre Jupiter. Et donc, ça veut dire des œufs à perpétuité, alors.
Non. Moi, je me contente avec un seul qui me donne l'immortalité.
Bien.
N'exagérons rien.
Puisque c'est un œuf, avec, entre parenthèses, du mou et du dur, comme notre squelette humain, fait de chair et d'os, il y en a deux côte à côte, il ignore tout ça. Mais il y a une chose que le petit Salvador Dali ne pouvait pas ignorer avant même de savoir l'histoire des Dioscures et tout, et qui a été fondamentale, c'est que tous les actes de sa vie étaient rapportés à son frère mort.
Mon frère était mort à 7 ans d'une méningite, 3 ans avant ma propre naissance. Désespérés, mon père et ma mère ne trouvèrent de consolation comme on arrivait au monde. Je ressemblais à mon frère comme deux gouttes d'eau se ressemblent. Même faciès de génie, même expression d'inquiétante précocité. Nous différions cependant par certains traits psychologiques et par le regard qu'il avait, voilé de cette mélancolie des intelligences insurmontables. J'étais beaucoup moins intelligent si, en revanche, je reflétais tout. J'allais devenir le prototype par excellence du pervers polymorphe, phénoménalement retardé, conservant intactes toutes les réminiscences des paradis érotogènes du nourrisson.
Pour remplacer son frère mort, ce qui, à mon avis, est un crime contre ce jeune être qui devait être une personne et non pas un remplaçant, un substitut et une réplique, un double d'un mort, on lui a donné le même prénom.
Mes parents me baptisèrent Salvador, comme mon frère. Ainsi que ce nom l'indique, j'étais destiné à sauver rien de moins que la peinture du néant de l'art moderne, et cela à une époque de catastrophe dans cet univers mécanique et médiocre où nous avons la détresse et l'honneur de vivre.
Le nom, c'est la personne. Ça, c'est une chose qui est bien connue, que tous les psychologues, que tous les ethnologues, les anthropologues, les historiens des religions vous montreront. Le nom, c'est la personne. Il était tout à fait saisissant, extraordinaire de voir comment, au fur et à mesure de la désagrégation de la personnalité due à la maladie, on a des altérations du nom. Puis après, le nom change. On va être Jésus-Christ, on va être Napoléon, chez un paranoïaque. Et alors, le fait qu'on a donné ce nom de sauveur, de salvador, que portait un mort à un vivant en lui disant « tu seras ton frère mort », c'est un processus de mortification. On l'a mortifié au départ, alors que par construction et par essence, le jeune enfant, c'est une petite pousse qui croit, qui tend à affirmer sa vie. L'environnement social était une contrainte fantastique, eu égard à la sensibilité de l'enfant vis-à-vis des parents, à s'identifier à un mort.
Surtout que ce nom-là, c'était aussi celui de son père.
Bon, alors il se trouve, en plus de ça, c'était le nom de son père. En général, le père est un modèle identificatoire, donc l'identification à Salvador allait donc voir, distinguer entre le Salvador mort qu'il était, le Salvador... Et en plus de ça, son père était un vrai paranoïaque. Car je me rappelle qu'un jour, la seule fois où j'ai parlé de son père à Dali, il m'a dit « Ah, celui-là, c'était un vrai paranoïaque par rapport à lui, qui est un authentique et vrai paranoïaque. » Mais la seule, comme il l'a dit, avec tellement de justesse et de lucidité et de précision dans l'analyse, la seule différence qu'il y a entre un fou et lui, c'est que lui n'est pas fou. Ça a l'air, beaucoup de gens l'ont peut-être pris pour un gag, mais le psychiatre que je suis, il trouve une vérité que je rencontre d'ailleurs dans toute une catégorie de malades qui ont indiscutablement une étiquette de psychose grave et qui se conduisent parfaitement normalement dans la vie. Donc voilà donc notre petit Salvador que l'on marque, définitivement à jamais au plus profond de son jeune être qui demande à être la vie, de la mort d'un frère qui lui était génial. Et qui, dont Dali, même Dali, en 1940, en écrivant La vie secrète de Salvador Dali, disait « Mon frère était un génie insurmontable ou insurpassable. Enfin, » il était beaucoup plus génial que lui, mais d'une génialité tellement débordante et absolue et transcendantale que ce n'était pas viable et c'est pourquoi il est mort. Et bien, le voilà, Salvador. Identifié donc à ce frère mort, et quand, lorsqu'il entrait dans la chambre de ses parents, que voyait-il en premier lieu, exactement face à la porte? Il y avait le Christ, il y avait la photographie de son frère, ce petit Salvador, c'est-à-dire cet autre lui-même, qu'il devait être pour obéir à son père, mais il y avait un quatrième Salvador, en dehors du frère. Lui était le Salvador numéro 1, mais pratiquement inexistant. Il avait le Salvador numéro 2, ce frère mort. Le Salvador numéro 3 était son père. Et le quatrième Salvador, c'était ce Christ, cette image qui trônait dans la chambre conjugale, au travers d'une donnée affective fondamentale que font papa et maman la nuit. Ça, évidemment, c'est déjà un petit peu technique et plus difficile à avaler, mais c'est pourtant fondamental. C'est ça qui obsède la pensée, disons, ni consciente ni inconsciente, parfaitement consciente, sans pouvoir se formuler, de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe la nuit entre papa et maman? Cette image, bon, bah, quoi, le Christ, aucun rapport, mais oui, il y a de gros rapports, car si son père était athée, sa mère, elle, était croyante. Et alors, il y a une chose qui n'a, je crois, été relevée par personne, c'est les gouvernantes. Nous savons, nous, médecins et psychiatres d'enfants, le rôle très important des gouvernantes. Et dans cette Espagne de 1908-1910, du début du siècle, encore plus peut-être que maintenant, ces paysannes d'alentour, de Figueras, et qui élevaient le petit Dali, étaient évidemment des croyantes inconditionnelles et bigotes. Eh bien, certainement que le Salvador, le sauveur, on lui en parlait beaucoup et souvent en l'absence du père, bien entendu, qui n'aurait pas toléré que son fils, peut-être, ait une instruction religieuse. Donc, ce Salvador, ce sauveur, ce cadavre qu'il a tant représenté ultérieurement dans le cours de sa vie, a marqué conjointement à l'autre mort la mortification qui a provoqué cette bascule dans une véritable psychose de dépersonnalisation. Il n'était pas encore personnalisé. On est en pleine dialectique dalinienne, car tous ces salvadors qui sont des sources de vie par leur nom du sauveur, ce sont les salvadors, au lieu de l'élever, l'ont dégringolé dans la terre et dans la putridité. Comme l'enfant est presque une cire vierge, il a tout reçu, donc sa vie va se dérouler, la descente aux enfers. Au fond, on retrouve la Divine Comédie de Dante. Alors la trajectoire de la vie de Dali, c'est passer de l'anti-salvador, c'est-à-dire de la mort, à la vie.
Pour regagner la vie et échapper à cette erreur, Salvador Dali dut inventer toutes sortes de subterfuges.
Il avait des symptômes psychopathologiques évidents et formidablement gênants. Je prends un exemple précis, la crainte effroyable, phobique, qu'il a encore des sauterelles. Ça, il se mettait à hurler, il entrait en transe, en convulsion. Il a inventé la contre-sauterelle. Il a décrété que c'était, je crois, un dessin de poisson sur du papier. Et il recommençait ses crises qui devenaient des fausses crises. Il avait des vraies crises d'hystérie. Il a fait des fausses crises d'hystérie chaque fois qu'on lui montrait un poisson dessiné sur du papier. Alors, vous parlez pour avoir, avec le sadisme génial et pervers des enfants, à tout moment, on était passé de la sauterelle au poisson. Et alors, à tout coup, on obtenait le résultat. Grâce à quoi il évitait l'effroyable angoisse qu'il prenait. Bon, si vous voulez, il avait, disons, 8 symptômes psychopathologiques évidents, inéluctables, qu'il ne pouvait pas éviter. Il en a inventé et il en a fabriqué une trentaine d'autres. Si bien qu'il en arrivait lui-même et surtout les autres, en présence d'une manifestation évidemment pathologique et spectaculaire, Il se disait, oui, mais c'est un faux. C'est exactement l'histoire du peloton d'exécution où il y a une balle à blanc et 11 vrais. Voilà le mécanisme de défense. C'est pour se cacher à lui et aux autres les vrais symptômes psychopathologiques qu'il a. Parce que les autres disent, oui, mais il simule. Ben, il vaut mieux être un simulateur qu'un fou.
Et c'est ça qui l'a sauvé.
C'est ça qui l'a sauvé et c'est ça qui l'a conservé. D'ailleurs, il a choisi ce mécanisme de défense sur la base, on revient toujours au frère mort, qui est mort tout en étant vivant, puisque c'est lui, mais lui n'est pas son frère, puisqu'il est lui.
Et on ne sait plus très bien qui il
est. Et finalement, de même qu'il ne s'y retrouvait pas lui-même, il a employé ce mécanisme de perdition, de conglomérat, dans l'image qu'il offre aux autres. C'est une drôlerie, une clownerie, encore une fantaisie de Dali. Alors, le miracle. Alors, il y a Dali avant Gala. Gala. Je voulais mettre Gala Dali. C'est l'œuf. Les deux œufs sur le plat sans le plat dans un seul œuf. C'est le thème des Dioscures. Gala. Parce que il y a eu un miracle d'accrochage. Gala, qui d'ailleurs avait été la descente de Lee et l'égérie de tous les surélés, s'était passé dessus, n'est-ce pas? Eh bien, il s'est quand même passé quelque chose de très grand. Qu'était Dali à ce moment-là? Une loque qui inquiétait tous ses amis et les marchands se demandaient est-ce qu'on peut miser cette espèce de personnage de curieux peut-être, mais déliquescent. Et au bord de la vraie folie, il avait des crises de fou rire, on ne pouvait pas parler avec lui. Il des fou rires tout le temps, on ne pouvait rien faire. Et lorsqu'il a voulu séduire Gala, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enduit de caca. Faut le faire. Enfin, d'odeur de bouc, exactement. Il faut le faire. Alors là, c'est la grandeur de Gala. Elle a eu le génie, car c'était un personnage extraordinaire, Gala. Elle a décrété, c'est Pygmalion, c'est le mythe de Pygmalion. Elle a dit, mon petit, nous ne nous quitterons plus. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit, mon petit. Donc c'était vraiment une Magna Mater, une mère protectrice. C'est pourquoi il a très raison en disant que c'était la mère, l'épouse, la sœur, c'était le père également, et elle a tout été pour lui. C'est un sablier. Il s'est vidé, elle l'a renversé. Mais, et c'est ça qui est capital et qui est passionnant, c'est que c'est pas comme ça, comme je le raconte. Il y a eu donc une espèce de conglomérat Galadali, et il l'a bien dit, nous avons sombré dans une sorte de démence, car cela a réveillé de vieux démons endormis dans la jeunesse de Gala, qui elle-même a eu des troubles psychiques donc quand elle était jeune, n'est-ce pas ? Ça, il le dit absolument formellement. Donc, c'est vraiment un suspense dramatique, ils sont au bord du précipice, ils vont tomber. Autrement dit, la folie de Dali est telle qu'elle a failli, et il le dit, j'ai failli à mon tour, l'entraîner avec moi dans ce précipice.
Nos premiers rapports furent marqués par une anormalité maladive permanente et des symptômes psychopathologiques caractérisés. D'euphoriques, mes rires devinrent pénibles et crispés, si voisins d'un état d'hystérie que je commençais de m'alarmer, malgré la complaisance avec laquelle je considérais ces éclats. Ma tombée en enfance s'accentua encore du fait que Gala me paraissait la même petite fille de mes faux souvenirs que j'appelais Galouchka, du diminutif de Gala. Les fantasmes de vertige réapparurent avec une intensité accrue. Au cours de nos excursions dans les rochers du Cap Creus, j'exigeais impitoyablement de Gala qu'elle grimpât avec moi sur tous les rochers les plus dangereux et les plus élevés. Les ascensions comportaient de ma part des intentions criminelles évidentes, surtout le jour où nous parvînmes en haut d'un bloc géant de granit rose, dont le sommet s'inclinait comme les deux ailes ouvertes d'un aigle au-dessus de l'abîme. Descendant de l'aigle, j'ai inventé de basculer dans le vide de grands blocs de granit. Ils roulaient en cascadant jusque dans la mer. Je ne me serais jamais fatigué de ce jeu si la peur de pousser Gala au lieu d'un des rocs ne m'avait contraint à quitter cet endroit où je me sentais continuellement en danger et terriblement surexcité. Gala était parvenu à saboter et à détruire ma solitude, et je l'accablais de reproches injustes, lui répétant qu'elle m'empêchait de travailler, que sa présence en moi me dépersonnalisait. De plus, je me persuadais qu'elle me ferait du mal. Et je lui disais, comme mordu à la nuque par une peur subite, « Surtout, ne me faites pas mal. Moi non plus, je ne vous ferai pas mal. » il faut que nous ne nous fassions jamais mal.
C'est là où il est un athlète psychique. C'est qu'il a réussi, grâce et à travers le transfert avec Gala, mais à eux deux, il ne faut pas l'oublier, c'est indissociable, à transcender le désordre en ordre. La transe totalement pathologique en une transe créatrice. Il n'a rien changé des matériaux, mais il a pu les organiser créativement. Il a dû avoir ce qu'on appelle les raptus anxieux, qui passaient presque à la chronicité. Et grâce à Gala, c'était un type pas d'angoisse. Et à juste titre, il s'est mis à signer Gala Dali, n'est-ce pas ? À juste titre, parce que maintenant, ils ne font plus qu'un. Il a retrouvé, et ça, c'est encore une fois un mythe, c'est le grand mythe platonicien de la moitié retrouvée. Eh bien, c'est un super homme, il est super équilibré, et il a réussi ce que peu d'humains dits normaux réussissent, un mariage heureux. J'entends par là ce qu'il y a derrière le mariage, il y a la recherche de l'âme sœur, si vous voulez, de la muse, c'est la même chose, la moitié perdue qui nous est complémentaire. Je crois, voyez-vous, que tous les génies ont un destin mythologique. Car si Picasso est entré dans l'histoire éternelle de l'humanité, eh bien, Dali aussi, c'est comme ça qu'il faut comprendre, je m'efforce tous les jours un peu plus d'être Dali. C'est-à-dire à transcender le Dali que vous connaissez et à être ce personnage mythologique, et tous ses dessins, toutes ses œuvres le montrent. C'est pourquoi j'étais juste au point de vue psychopathologique en découvrant que le point d'explication, le concentré cosmique de Dali, c'était le thème des jumeaux. J'étais dans la mythologie et j'étais au cœur de la folie, j'étais au cœur du génie. Bien. Parce que génie, folie, mythologie, c'est tout un. On dirait que la mythologie, c'est la cristallisation des lignes de force de l'homme total, dont chaque être médiocre que nous sommes ne réalise qu'une petite partie, faiblement, pauvrement, très amputée. Et alors, vient un génie, c'est l'homme total, c'est donc la mythologie.
C'était Naissance des angoisses liquides, le 8e des 10 épisodes de la série Clé pour un théâtre musée, proposé par Daniel Lecomte, avec Salvador Dali et Pierre Roumeguer, son psychanalyste. Lecture Jacques Dufilho, réalisation Jacqueline Archambault, première diffusion sur France Culture le 15 novembre 1978 dans Les Nuits Magnétiques. À suivre.